appelle à un lundi noir le 17 février. Kirk Douglas était considéré comme l'un des derniers monstres sacrés d'Hollywood, sinon le dernier monstre sacré. C'est son fils Michael, célèbre acteur lui aussi, qui a annoncé hier soir la mort de son père à l'âge de 103 ans. Kirk Douglas, l'homme à la fossette. Il laisse une carrière d'acteur marquée notamment par les films 20 milieux sous les mers ou bien encore Les Sentiers de la Gloire et Spartacus. Un dernier mot de basket. L'équipe de France féminine aborde l'ultime étape sur la route des Jeux Olympiques de Tokyo. Elle affronte ce soir l'Australie à Bourges. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir écouté.
Radio G.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, vous écoutez l'Oreille Curieuse sur Radio G. Bienvenue à l'écoute de la quotidienne des actualités culturelles et locales. Un jeudi sur deux, ici on parle de cinéma et de mise en scène, avec d'étoiles plein les yeux, la chronique réalisée par Margot. Rendez-vous en deuxième partie d'émission, on va parler d'amour. Avant cela, nous allons parler de théâtre, avec une pièce tout public, Fly Cotton Fly. Cette pièce évoque l'enfance, la jeunesse, et nous en recevons l'autrice, Jalie Barcilon. Il y a plein de choses à dire, et je ne vous en dis pas plus pour l'instant, puisque ça va être tout le début de cette émission. Vous connaissez maintenant le programme, c'est Annelie derrière le micro, et avec moi dans le studio, il y a Margot. Salut Margot.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Il y a également Marine, bonsoir Marine.
Bonsoir Annie.
Et tu es une nouvelle voix de cette émission. Merci à toi. Et c'est toi qui as préparé cette interview en plus. Et il y a bien sûr notre invitée, Jalie Barcilon. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là. Marine, je te laisse mener cet entretien.
Et oui, on a voulu parler ce soir d'un spectacle qui s'appelle donc Fly Cotton Fly, que Jalie Barcilon a écrit et qui va être en tournée à partir du 4 mars dans 12 structures culturelles du Maine-et-Loire. C'est ce qu'on appelle le projet des PJP 49, donc les partenaires jeunes publics 49, qui sont donc 12 structures allant de la petite salle municipale au CDN, donc le quai à Angers, qui se réunissent chaque année pour choisir une création à soutenir. Donc cette année, ils ont décidé de soutenir la création de l'Insomniac Company et de E Company, qui se sont donc alliés pour mettre en scène Fly Cotton Fly. Donc l'idée de cette mutualisation de ces partenaires jeunes publics, c'est vraiment d'aider à financer un projet, mais aussi, et c'est très important, de mettre en place un projet de médiation en commun autour de cette pièce-là. Et donc c'est pour ça que Jalie Barcilon est là ce soir, puisque chaque structure culturelle qui va accueillir le spectacle a formé un groupe, particulièrement de scolaires, et chaque groupe va interroger la figure du héros, donc le thème de la pièce, on verra tout à l'heure, avec un artiste différent sur plusieurs disciplines, que ce soit le théâtre, la danse, le chant, l'art plastique, la musique. Et chacun des groupes, avec chacun des artistes, va créer une œuvre autour du héros, et toutes ces œuvres-là seront réunies sur une plateforme numérique accessible là à la fin de la saison. Et donc cette idée de projet de médiation en commun, c'est très enrichissant pour les élèves, puisque comme tout projet de médiation, c'est pouvoir se confronter à l'œuvre différemment, en amont avoir des outils, une approche qui permet d'enrichir la rencontre avec l'œuvre le jour J. C'est ce que donc Jalie a proposé avec des collégiens toute cette semaine. Bonjour Jalie.
Bonjour.
Et donc on va parler de Fly Cotton Fly, puisque vous avez reçu une commande de Maude Hufnagel et Mareva Karasu, qui sont toutes les deux comédiennes, et qui ont découvert cette histoire d'un adolescent extraordinaire, écrit par Élise Fontenaille avec le roman Le garçon qui volait des avions, Avec ce roman, elles ont découvert cette histoire. Donc, c'est un adolescent surnommé le voleur aux pieds nus ou le bandit aux pieds nus, puisqu'il a commis beaucoup de dégâts. Et à chaque fois qu'il volait des choses, il laissait des traces de pieds nus. C'est un destin assez extraordinaire, puisqu'il a commis des exploits. Même s'ils étaient illégaux, ce sont des exploits. Il a réussi à voler un avion et tout le monde n'est pas capable de le faire. C'était son rêve. Il a volé l'avion, mais il a aussi volé dans cet avion. Est-ce que vous connaissiez l'histoire de Colton Harris Moore, cet adolescent américain, avant qu'on vous demande d'écrire une pièce sur lui ?
Alors non, je ne connaissais pas du tout Colton Harris Moore, parce qu'on en a... En tout cas, en France, il n'est pas si connu que ça. On en a entendu parler au moment de sa cavale, entre 2008 et 2010. Mais au moment où elles m'en ont parlé, non, moi j'avoue que j'étais passée à côté en fait. Alors qu'en Amérique, il a vraiment défrayé la chronique, c'est le cas de le dire. Donc voilà.
Il a défrayé la chronique puisqu'en effet, il a réussi à se substituer au FBI qui l'a quand même pourchassé pendant 2 ans.
Alors, il était, si vous connaissez le film « Attrape-moi si tu peux », avec Leonardo DiCaprio, c'était un peu comme ça que titraient les journaux à l'époque, « Catch me if you can », parce qu'effectivement, pendant 2 ans, le FBI lui court après. Alors, il faut peut-être remonter un peu à l'origine, à l'enfance de Colton, en fait, parce que c'est aussi ça qui est assez fascinant dans son histoire. C'est que c'est un petit bandit, mais depuis l'âge de 8 ans, il a commencé. Donc, il habite sur une petite île dans l'archipel de San Juan, à l'ouest des États-Unis, à côté du Canada. C'est une île qu'il faut imaginer assez magnifique, une baie fantastique, des dauphins, des baleines, des forêts. Il y a beaucoup de gens assez riches en fait, beaucoup de touristes, beaucoup de beauté là-bas. Et il y a aussi des gens très pauvres. Et Colton, il fait partie des quelques pauvres de l'île. Et notamment, il habite dans un mobilhome avec sa maman, sa mère, Pamela Coller. Le père est parti quelques années après sa naissance. Et Pamela, elle est assez marquée par l'alcool. C'est assez violent avec lui. Et lui, pour s'échapper de ce quotidien assez désastreux, il passe son temps dans une petite tente, comme Tom Sawyer en fait. C'est un petit enfant sauvage, très débrouillard, qui alterne entre la vie dans la forêt et l'école. Mais à l'école, vous imaginez bien qu'il n'est pas super adapté. Et il se met à voler des choses très jeunes, notamment passionné de dessin. Il vole des pinceaux à sa maîtresse, des choses comme ça. Et le premier larcin connu, c'est le vol d'un vélo. Mais je ne sais pas s'il l'a volé ou pas. Lui, il crie à l'injustice. Il dit que non, on lui a donné, c'est sa mère qui lui a payé. La police ne veut rien entendre. Et voilà le début de son désir de faire la guerre à la police.
Ça nourrit un sentiment de frustration chez lui et d'injustice qui l'a amené ensuite.
Exactement. C'est ça qui est marquant chez lui. C'est la frustration d'être un enfant laissé sur le bas-côté, dont on ne s'occupe pas vraiment et qui, en plus, subit cette injustice et qui... Et alors que tout le monde ne ferait pas ça, mais lui, à partir de 10 ans, il se met à voler des voitures. Donc tout petit, il a observé comment sa maman faisait et il prend des belles bagnoles, comme il dit. Hein. Il n'aime pas trop les 4x4 pourris, il préfère les belles voitures. Et donc il se met à les piloter. Et puis il aime le mouvement, ce garçon. Il s'arrête jamais. Donc comme on est sur une île, il en profite. Il prend des petits hors-bords, il fait des petits tours d'île. Et puis... En parallèle, sans que personne ne le sache, en réalité, sa passion, c'est les avions. Et donc, il apprend à piloter des avions, mais tout seul, parce que personne n'est là pour lui payer des cours. Donc, en fait, il est sur un simulateur de vol. Il a appris à piloter. Son apprentissage, il le fait, j'imagine, parfois dans sa petite tente dans la forêt, mais surtout dans les villas de riches qu'il squatte tous les hivers. Alors, c'est un peu un ado comme tous les ados aussi. Hein. Donc, il se balade pieds nus, il pique des pizzas et des agendas et il s'éclate sur son simulateur de vol.
Et donc, vous êtes beaucoup documenté sur cet adolescent pour écrire la pièce. Qu'est-ce qui vous a fasciné, si vous avez été fasciné? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage?
Alors, ce personnage, on l'a exploré à trois avec Maud et Mareva, dont vous avez parlé au début. Donc, au début, notre enquête, on l'a fait vraiment toutes les trois en allant lire donc le roman dont vous avez parlé, un autre roman qui a été écrit sur lui, et on a épluché la revue de presse sur Colton, qui représente quand même beaucoup d'articles. Et ce qui nous a fascinés toutes les trois, c'est qu'en fait, il était à la fois insaisissable personne n'arrive à l'attraper, le FBI n'arrive pas à l'attraper lui-même. Mais c'est aussi qu'il est insaisissable dans son identité, c'est-à-dire qui est Colton Harris Moore. Personne n'a le même point de vue sur ce personnage.
Bandit ou héros ?
Voilà, est-ce un bandit, est-ce un héros ? C'est ce qu'on finit par se demander sur lui. Au début, il a un peu tous les qualificatifs. Il a, donc, c'est un petit voleur, c'est un petit voyou, c'est un délinquant. Ça devient l'idole des jeunes. Ça devient le héros des jeunes, parce qu'il a aujourd'hui 60 000 fans sur sa page Facebook. Il y a des gens qui écrivent des chansons pour lui. Il y a des t-shirts qui sont à son effigie. Ce qui est très intéressant, c'est que les jeunes, en fait, lui disent « Fly, Colton, fly », continue de voler. En fait, il incarne une sorte d'idéal. Comme vous le savez, en Amérique, il y a un mot clé, c'est la liberté. Et donc, il incarne ce jeune venu des bas-fonds, vraiment, qui n'a rien, qui est pauvre et qui s'extrait de sa pauvreté, mais tout seul, en fait, avec son intelligence, et c'est un garçon ingénieux. Donc ça incarne une forme d'idéal pour les jeunes. Alors évidemment, et puis parce que ça fait rêver, quoi, quelqu'un qui vole un avion, qui s'envole, mais il n'en vole pas qu'un, il en vole cinq, il arrive à semer les plus grandes autorités.
Et tout ça à 16-17 ans, quoi.
Et tout ça à 17 et 19, la cavale. Donc voilà, pendant que moi, je sais plus ce que je faisais, mais entre 17 et 19 ans, mais je pense que j'étais avec mes copains en train de faire du roller, mais je piquais pas des avions. Et donc voilà, d'un côté l'idole, mais de l'autre l'ennemi public numéro un. Donc c'est ce côté, voilà, qui est-il ? Comment on peut le regarder ? Et il nous échappait nous-mêmes, en fait. C'est ça qui nous a intéressés.
Et donc la commande d'écriture, c'était écrire une pièce de théâtre d'une heure pour deux comédiennes avec de multiples personnages, une pièce chorale où la question centrale est comment fabrique-t-on un héros ? Est-ce que pour vous c'est un héros ? Un héros est censé défendre des valeurs ? Si c'est le cas, est-ce que Colton en défend et lesquelles ?
Alors moi, cette question du héros, elle m'a bien plu, je vous l'avoue, parce que bon, je suis pas une grande spécialiste, mais je peux vous dire que voilà, il y a entre le héros qui avait la valeur d'exemple au temps des Grecs, qui était celui auquel on doit s'identifier et qui était plutôt le guerrier, on va dire, donc c'est Achille en fait le héros, c'est celui qui fait des exploits pour la nation, jusqu'au super héros d'aujourd'hui et jusqu'au héros Colton, il y a quand même une différence parce que, en fait, il accomplit des exploits, mais c'est quand même surtout pour se sauver lui, en fait, se sauver de sa misère et aussi pour peut-être pour épater la galerie, peut-être qu'il a joué aussi avec sa célébrité parce que, comme il y avait des articles sur lui qui étaient de plus en plus intéressants, un peu plus dingues, il a peut-être joué avec ça. Mais c'est pas quelqu'un qui est au service d'une cause ou de la justice. Et donc, ça nous a interrogés, en fait. On oscillait tout le temps en train de se dire « héros, pas héros ». C'est pas comme Martin Luther King, c'est pas comme Rosa Parks. C'est pas des gens qui, à un moment, se dépassent pour une cause. Donc voilà, moi, j'ai pas de... Je me suis attachée à lui, je crois.
Et la question reste ouverte.
La question reste ouverte.
En tout cas, la juge du procès de Colton a dit qu'elle se devait de le condamner au vu de l'illégalité de ses actes, mais elle confie quand même que pour elle, c'est le triomphe de l'esprit humain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Moi, je suis assez d'accord avec ça parce que, si vous voulez, il a été qualifié. Moi, ce que je trouve intéressant et qui m'avait un peu échappé au début, c'est qu'en fait, il a été qualifié d'enfant autiste à un moment donné parce que c'est un enfant qui, solitaire, tout seul, passe son temps à étudier des choses et devient super doué, quoi. Donc on peut dire, oui, c'est le triomphe de l'intelligence humaine parce que à la fois, il sait diriger une machine, techniquement, il est super fort. Et puis comme tous les braqueurs de banque, hein, ce sont des gens extrêmement ingénieux et rusés. Hein, c'est des gens qui sont capables d'inventer des plans, de s'y tenir, de ne pas rater. Il n'y a aucune erreur à faire quand on fait ce genre de choses. Donc ouais, il y a quelque chose de l'ordre du triomphe de l'intelligence humaine, ça c'est clair.
Et du coup, Maud et Mariva vous ont demandé d'écrire sur ce personnage-là, vous vous êtes documentée. Mais du coup, le fait que ce soit une commande, qu'est-ce que ça influence sur le processus de création ? Est-ce que vous avez une totale liberté ? Est-ce qu'elles ont leur avis à donner ?
Alors, en fait, ça dépend des projets. Moi, je réponds souvent à des commandes, mais chaque projet a son identité. Donc là, il se trouve que sur ce projet-là, on a vraiment fonctionné en aller-retour, comme on dit dans le métier, c'est-à-dire que j'ai fait des propositions, elles ont donné leur retour, j'ai réécrit, elles m'ont refait des propositions. Enfin, donc voilà, on a travaillé, on va dire, main dans la main. Donc, il n'y a pas une totale liberté. Après, on pourrait dire que la totale liberté créatrice n'existe pas. Il y a toujours des deadlines, il y a toujours des contraintes. Et les contraintes, en général, c'est assez amusant, quoi. Et donc, il y a un côté joueur là-dedans que moi, j'aime bien. J'aime bien jouer avec l'écriture. J'aime bien... Ça m'a plu, quoi. Et voilà.
Et donc, la pièce est pour deux comédiennes, Maud et Mariva, qui mettent aussi en scène. Sans dévoiler la pièce... Est-ce que vous avez donné la parole à Colton ?
Alors, en fait, ça faisait partie du jeu qui était de ne pas donner la parole à Colton, puisque qu'est-ce que Colton ? Comment les gens reçoivent Colton ? Qu'est-ce qu'on pense de lui ? C'était ça qui était l'enjeu. C'est comment l'entourage, les gens autour, qu'est-ce qu'ils disent de lui, en fait ? Comment ils le voient pour justement faire entendre ses multiples voix ? Et en même temps, il y avait l'idée de faire vivre la tension dramatique, la cavale. Qu'est-ce que c'est que de faire une sorte de film américain, mais au théâtre, et avec les outils du théâtre, et même avec un côté, magie, prestidigitation, enfin, chose qu'on fabrique artisanale. Voilà. C'est du film américain artisanal. Donc, c'est ça qui est intéressant, je pense, dans la mise en scène que vous allez voir, qui a un petit côté... on va voir. Je n'en sais rien parce que moi, je n'ai pas vu de photo encore.
Surprise, on pourra le découvrir.
C'est la surprise.
Vous l'avez écrit dans votre note d'intention, dans votre processus de création. Que vient nous dire l'étrangeté radicale de Colton de notre monde d'aujourd'hui ? On parle de rébellion. Est-ce que ça veut dire qu'on en a besoin ? Pourquoi on est fasciné par ce genre de personnage, à votre avis ?
Il y a le mot rébellion que je trouve assez beau. Et il y a aussi un autre mot qui m'a plu au début, à un moment donné... Maud m'a dit, mais en fait, un mot qui convient très bien à Colton, c'est l'insolence. Et en fait, j'ai trouvé ce mot très beau parce que quand on regarde l'étymologie du mot, insolence, c'est celui qui rompt l'habitude. C'est celui qui ne fait pas ce qu'on a l'habitude de voir, d'entendre. C'est celui qui... Il y avait un chemin tracé. Eh ben non, lui, il ne prendra pas cette route-là. Et en fait, on a besoin de gens qui rompent les habitudes. Alors du moment évidemment qu'ils ne tuent pas leurs voisins ou c'est évidemment pas ça qui est mis en avant, mais et ce qui est très intéressant, c'est que là je fais des médiations avec des jeunes et puis à un moment donné je leur ai dit alors ce serait qui pour vous un héros ou une héroïne d'aujourd'hui? Donc on a cherché, donc au début ils m'ont plutôt parlé de leurs idoles plus que des héros. Donc là, j'avoue que je les connaissais pas en fait. Il y avait des chanteurs de pop coréens dont j'avais jamais entendu parler, des youtubeurs que je connaissais pas. Non, il y avait Michou Croûte, un youtubeur, et il y avait des gens que je connaissais absolument pas. Donc là, j'ai dit ça c'est vos idoles, c'est pas des héros. Et à force de leur poser des questions, est arrivé un nom que j'ai trouvé super, qui est Greta Thunberg. Parce que je me suis dit, aujourd'hui, s'il y en a bien une qui a l'âge de Colton, qui rompt les habitudes, qui fait une grève dans les lycées au nom d'une cause qui est supérieure à elle, donc on peut la qualifier d'héroïne, c'est Greta Thunberg. Et en plus, elle a été qualifiée un peu d'autiste et qui, pour moi, me la rapproche de Colton, quoi. Donc voilà, je trouve que...
Elle est peut-être un peu moins individualiste que Colton.
Elle est complètement beaucoup moins individualiste, ça c'est sûr.
Elle défend une valeur qui la dépasse. Mais du coup, on parle de jeunesse, on parle d'adolescence. Vous avez aussi écrit une pièce qui s'appelle Tigrane, qui est publiée aux éditions L'Harmattan, qui a été lauréate du prix La Vie devant soi, et qui traite aussi de ce thème-là, l'adolescence, la jeunesse, la marginalité. Pourquoi c'est quelque chose qui vous anime autant ?
Alors ça, j'avoue que c'est depuis... Il y a eu plein de choses qui ont fait qu'un jour, je me suis rendu compte, en fait, parce que des fois, quand on est écrivain, on a des obsessions, mais on s'en rend pas compte. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mes personnages qui, effectivement, étaient jeunes, étaient des ados. Il y a eu plein de raisons. Je crois qu'il y a une des raisons qui tient au fait que j'ai beaucoup animé d'ateliers théâtre et d'écriture dans des cités, dans des banlieues, dans des endroits justement un peu éloignés de la culture, comme on dit. Hein. Et quand on vient faire écrire des jeunes, et notamment à partir de thèmes forts comme justement l'héroïsme ou la peinture ou les tableaux ou les grands sujets, on se rend compte que quel que soit l'endroit d'où ils viennent, ils ont souvent des textes extrêmement profonds, ils écrivent des choses très fortes, ils ont une soif d'apprendre et eux-mêmes l'ignorent en fait. Et je crois que fondamentalement c'est ça qui me touche, c'est à un moment donné faire parler une jeunesse, mais pas seulement pour dire des choses, voilà, je sais pas comment dire, mais en tout cas ce qui m'intéresse c'est la poésie de la jeunesse. Et puis après ça s'est un peu renforcé même avec les événements dramatiques qui ont eu lieu, voilà, il y a eu le Bataclan, il y a eu tout ça, et c'était des gens pas si vieux que ça quand même qui ont fait ces actes. Et à un moment, je me souviens, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait, quoi, avec la jeunesse? Pourquoi elle a pas la parole? Comment ça se fait qu'il y a autant de frustration? Et donc, je me suis dit, bon, après, moi, mon credo, c'est l'art. C'est comment donner la parole de façon artistique, que je trouve importante. Et puis aussi, comment ne pas être dans notre bulle d'artiste et d'ouvrir nos répétitions, d'ouvrir les théâtres, d'ouvrir nos métiers. D'ouvrir même nos carnets d'adresses de façon très concrète pour des jeunes qui ont besoin de faire des stages, qui sont loin justement des milieux culturels, bah comment donner le numéro de, je sais pas moi, de moi même, mon numéro pour dire voilà, tu peux faire un stage dans ma compagnie, enfin toutes ces choses-là très concrètes en fait. Et voilà, je pense que ce sont des choses qui m'animent.
Mais ça, c'est quelque chose que vous faites beaucoup, des ateliers d'écriture, ouais, avec notamment principalement les jeunes. Est-ce que ça nourrit aussi votre travail d'écriture à vous ?
Ah oui, mais carrément, parce qu'en fait, Tigrane, quand j'ai commencé à écrire Tigrane, le personnage de Tigrane, une des premières scènes, c'est un jeune qui découvre un tableau pendant un cours et qui se révolte face à un tableau d'Escher parce qu'il ne comprend pas les architectures impossibles et il ne supporte pas en fait ce tableau qui est assez troublant, il faut dire, et qu'ensuite il se met à écrire et à se prendre de passion pour l'écriture. Et en fait, c'est venu d'un ado que j'ai rencontré il y a très longtemps. Qui est vraiment, il m'est arrivé ça, quoi, qui est le sale gosse du fond de la classe, qui a le crâne rasé, qui s'intéresse à rien, et puis qui tout d'un coup se met à écrire toute l'année. Et je sais pas ce qu'ils deviennent en plus, parce que moi, on est des intervenants, on passe quelques mois, pas longtemps en fait, mais il y a des jeunes qui nous marquent en fait, et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Et il se trouve qu'en donnant la parole à ce jeune à travers mon personnage de Tigrane, effectivement, ce qui est fou, c'est que il touche, quoi, il touche les ados. Et ça me plaît, en fait. Quand on fait du théâtre pour la jeunesse, on se pose pas trop de questions pourquoi on le fait, je crois, parce que c'est assez évident.
Donc ça veut dire,
quoi,
que vous faites du théâtre pour la jeunesse parce que vous écrivez sur la jeunesse, vous faites écrire les jeunes, mais est-ce que vous considérez que votre œuvre s'adresse principalement à la jeunesse ou pas?
Alors,
forcément,
pas tout. Moi, je pense que ça plaît autant aux jeunes, aux ados qu'aux adultes. Mais non, je crois vraiment qu'en plus, vous savez, dans l'adolescence, c'est un âge où c'est pas l'enfance, quoi. Et souvent, ce qui plaît aux ados plaît aussi aux adultes. Et finalement, ça touche peut-être l'adulte qui, voilà, l'adolescent qui a en lui, la jeunesse qui a en lui. Enfin, du coup, je n'y pense pas forcément quand j'écris, mais en tout cas, force est de constater que dans les salles, quand il y a la mixité des âges, c'est super.
Donc ce sera le mot de la fin. N'hésitez pas, quel que soit l'âge que vous avez,
exactement,
à venir découvrir Fly Colton Fly, qui sera donc au THV le 3 mars, à Saumur le 10 mars, à Saint-Georges-sur-Loire le 13 mars, Saint-Georges-sur-Layon le 15 mars, Beaufort le 25, Tiercé le 27 et au Quai 2 et 3 avril. Merci beaucoup.
Grande tournée dans tout le département. Merci beaucoup, Jalie.
Merci.
Et merci beaucoup, Marine, pour cette interview. J'ai choisi un morceau qui nous renvoie à la vie de White Trash. On va écouter le plus connu d'entre eux, c'est Eminem, super connu. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. They started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots. Dr. Dre's dead, he's locked in my basement.
feminist women love Eminem.
Chicka 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 Slim Shady, I'm sick of him. Look at him walking around grabbing his you know what, flipping the you know who.
Yeah, but he's so cute though.
Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips, my bum is on your lips, and if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is by the time they hit fourth grade. They got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus and it goes.
I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up.
Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? You guys can just lie to get me here, so you can sit me here next to Britney Spears? Your shit, Christina Aguilera better switch me chairs, so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV.
Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim.
I said download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MVD. I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me, so I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me.
I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up.
I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugarcoated at all. I just get on a mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out can. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes? It's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting, pinching nurses' asses when I'm jacking off of Jergens, and I'm jerking, but this whole bag of Viagra isn't working. And every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings, or in the parking lot circling, screaming I don't give a fuck, with his windows down and his system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can, how does it go?
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up.
Guess it's a Slim Shady in all of us. Hockey. Let's all stand up.
Après avoir parlé de théâtre avec Fly Colton Fly, après les grands classiques avec Eminem, on parle maintenant de cinéma sur Radio G et dans l'oreille curieuse avec des toiles plein les yeux. Salut Margot.
Bonsoir Ali et bonsoir à toutes et tous. Donc on va changer de complètement d'époque et d'atmosphère maintenant, puisque me revoilà à ce micro pour évoquer avec vous un film à partir de quelques extraits.
Alors quel est le menu de ce soir ?
Alors pour ne rien vous cacher, vous le savez probablement déjà, vendredi prochain c'est la Saint-Valentin. Et en guise de préparation, eh bien j'avais envie ce soir de vous parler d'amour au cinéma. D'amour et d'adultère, tant qu'à faire. Voilà pourquoi nous partons à Hong Kong au début des années 1960. Et notre guide, c'est le réalisateur Wong Kar-wai, l'homme au titre de film aussi romantique que prometteur, écoutez plutôt. Nos années sauvages, Happy Together, Les cendres du temps, Les anges déchus, ou bien, et c'est le film dont nous allons parler ce soir, In the Mood for Love.
Tout un programme.
Effectivement. César du meilleur film étranger en 2001, le film se présente comme une variation mélancolique d'un motif classique du cinéma, Boy Meets Girl, autrement dit, elle et lui. Elle, c'est Madame Chan, secrétaire dans une agence de voyage, mariée à un homme d'affaires qui voyage souvent. Avant de la voir à l'écran, on peut l'imaginer en découvrant l'épigraphe qui apparaît au début du film.
Leur rencontre était embarrassante. Elle était timide, tête baissée, lui donnant une chance de s'approcher. Mais il avait trop peur pour le faire. Elle s'était détournée et elle était partie.
Lui, c'est Monsieur Shaw, qui travaille dans une imprimerie et est marié à une réceptionniste. Comme en écho à l'exergue du générique début, le film se clôt sur une autre inscription qui cette fois fait référence à l'homme.
Il se souvient des années passées, comme s'il regardait à travers une fenêtre poussiéreuse. Le passé est quelque chose qu'il peut voir, mais pas toucher. Et tout ce qu'il aperçoit est flou et indistinct.
C'est donc elle, puis lui. Et entre les deux, quatre années pendant lesquelles se déroule le film, comme en balancier entre ces deux corps qui s'esquivent, se croisent, se font face, puis s'éloignent. Je vous propose maintenant d'écouter un premier extrait du film In the Mood for Love. Les deux couples Chan et Shaw ont aménagé le même jour dans deux appartements voisins, dont les portes s'ouvrent sur le même couloir étroit, décor majeur du film. Cette valse entêtante qu'on entend revient comme un refrain tout au long du film. À l'image, une porte ouverte nous donne à voir une pièce en fumée où une tablée joue au mahjong. Madame Chan, cintrée dans une robe traditionnelle au motif fleuri, rentre dans la pièce. Elle s'assoit derrière son mari, de dos, que l'on devine en train de jouer. Une autre silhouette féminine entre à son tour, robe occidentale unie, ajustée, dos nu. Madame Shaw, dont la chevelure détachée masque le visage de profil. Madame Chan lui sourit puis se lève pour la laisser passer. Elle reste debout alors que Monsieur Shaw sort de la pièce, lui adressant un sourire poli. Il disparaît par le couloir. Alors que la caméra s'éloigne lentement de la pièce, Madame Chan serre la main de sa femme sur son épaule et le couple se détache dans le chambranle de la porte ouverte.
Voilà, ta valise est prête. J'espère que ça ira.
Merci.
Dans la chambre, Madame Chan termine de se préparer.
Je t'ai mis ces affaires sans savoir combien de temps tu partais.
2 semaines ou 1 mois.
Essaie de trouver 2 autres sacs, comme celui que tu m'as rapporté la dernière fois.
C'est pour qui ?
Mon patron.
Pourquoi 2 sacs ?
Tu sais pourquoi.
De les prendre couleurs différentes ?
La même couleur, ce sera cocasse.
Bon, si tu le dis.
Après un dernier baiser à son mari, Madame Chan s'éloigne prestement par les 3 couloirs. Tournée au ralenti et en plan séquence, cette scène autour de la table de jeu donne l'impression d'un ballet parfaitement chorégraphié dans un espace contraint. Ballet des corps et ballet des cœurs, comme on le découvrira plus tard, même si l'hypothèse est déjà évoquée dans le dialogue entre Madame Chan et son mari, qui fait allusion à mots couverts aux infidélités de son patron. Cette scène est aussi intéressante parce qu'elle cristallise ce qu'on retient de In the Mood for Love des années après sa sortie. La valse, d'abord, devenue quasi signature sonore du film. Et puis la silhouette en robe kipao du personnage de Madame Chan, qui la caractérise autant qu'elle l'isole, des hommes, tous en costume sombre à l'occidentale, comme des femmes, en robe plus sobre, terne et unie. À l'image, les années 1960 se déploient richement. Le réalisateur Wong Kar-wai explique.
Je désirais plus que tout rendre cette époque, qui était une époque bien plus subtile que la nôtre. Je voulais parler de la vie quotidienne à ce moment-là, des relations conjugales, des voisins, de tout. Je voulais que le film contienne toutes les saveurs qui me sont familières.
Écoutons maintenant un nouvel extrait. Madame Chan, en robe rayée de gris, est dans le couloir. La caméra, en plan fixe, montre Madame Chan sur le palier.
Bonsoir. Savez-vous où est Monsieur Koo ?
Il est sorti. Oh. Vous avez oublié d'acheter votre feuilleton ?
Oui, ça ne fait rien.
Je vais vous passer le mien.
Merci.
L'image, toujours en plan fixe, montre la femme hésitante qui attend à la porte. Elle se décide à entrer et la caméra la suit dans l'intérieur des shows.
C'est celui-ci ?
Oui.
Vous lisez le feuilleton sur la chevalerie ? Je ne ratais jamais un épisode avant.
Vous aimez aussi cette littérature ?
C'est une passion, à tel point que j'avais songé à écrire.
Pourquoi vous ne le faites pas ?
J'avais tout le mal du monde à trouver un début. Ça demande du métier, en fait. Je pourrais vous prêter mes recueils. Voudriez-vous les lire?
Peut-être plus tard. C'est très gentil. Bonsoir.
Madame Chan, en robe verte, est à nouveau devant la porte de son voisin.
Qu'est-ce qui vous amène, Madame Chan?
Je viens rapporter les livres de Monsieur Cho. Il est ici?
Il n'est pas rentré depuis plusieurs jours.
Pourquoi?
Il a eu une dispute avec son épouse. Vous n'avez qu'à me laisser les livres. Je les lui donnerai quand il se décidera à revenir.
Merci.
De rien.
À l'image, la pile de livres déposée par Madame Chan attend sur une commode. Alors, cet extrait du film In the Mood for Love dure 1 minute 20. Le temps qu'il faut à Wong Kar-wai pour nous faire comprendre, par les costumes, les accessoires et le décor, que la glace est brisée entre les deux voisins. Entre le début de la scène où Madame Chan se présente, timide, pour emprunter un journal, et la fin, où elle rapporte les livres prêtés par son voisin, le réalisateur place une ellipse temporelle d'une durée indéterminée. Combien de temps et de rencontres a-t-il fallu à Madame Chan et Monsieur Cho pour troquer le journal contre les livres? Le film ne nous le montre pas, mais le changement de robe de Madame Chan nous fait comprendre le passage du temps. La pile de livres sur la commode évoque le lien qui se noue. Et la caméra, qui dans la deuxième partie de la scène reste sur le palier vide, souligne la proximité nouvellement créée. Madame Chan n'hésite plus à pénétrer chez Monsieur Cho. Écoutons un nouvel extrait, premier basculement du film. Madame Chan est à son bureau, désabusée.
Tu comptes sortir ce soir? N'oublie pas de prendre tes clés. Tous les voisins dînent dehors. J'ai encore du travail ici. Je rentrerai assez tard.
Madame Chan raccroche. Des mouvements à l'intérieur de l'appartement.
Qu'y a-t-il, Madame Chan?
J'avais entendu des voix. J'ai cru que Madame Koo était rentrée.
Non, pas encore. Puis-je quelque chose pour vous?
Non, je voulais discuter un instant. Vous êtes toute seule?
Oui.
À l'image, plan fixe sur le visage hésitant de Madame Chan.
Vous avez fini tôt aujourd'hui?
Je ne me sentais pas très bien. J'avais besoin de me reposer.
Un médicament vous aiderait? Voulez-vous que j'en apporte?
C'est inutile. Je vais juste dormir.
Dans ce cas, je me retire.
Madame Chan reste interdite, seule sur le palier devant la porte close.
C'était ta femme.
La porte de la chambre se ferme. À nouveau, l'extrait est très bref, et c'est par le montage et le hors-champ que le spectateur, ainsi que Madame Chan probablement, apprennent la liaison entre son époux et leur voisine, Madame Cho. Cette séquence suit directement une scène qui nous montre Madame Chan complice des infidélités de son patron. Ses manigances nous préparent à découvrir l'adultère de son mari. La révélation se fait au moyen du hors-champ, c'est-à-dire par une conversation qu'on entend sans voir à l'écran les protagonistes. Pendant l'échange entre les voisines, la caméra reste sur Madame Chan. Jamais le visage de Madame Cho n'apparaît à l'image, ni dans cette scène, ni à aucun autre moment du film. Il en va de même pour Monsieur Chan, comme pour matérialiser l'idée que ces deux personnages ont bien quelque chose à cacher, leur liaison. Celle qui incarne avec force l'épouse délaissée, c'est la star Maggie Cheung. Le tournage du film In the Mood for Love a duré 15 mois, ce qui est énorme. La comédienne témoigne de son travail.
L'accumulation du temps passé sur le tournage m'a permis de me fondre complètement dans le personnage. Je n'avais pas de scénario, pas d'idée de ce que le film allait raconter. Le personnage était entièrement à construire. Mais pendant 15 mois, il s'est formé lentement. Un travail d'absorption se produit. J'avais le sentiment de ressentir au plus profond de moi ce qu'il fallait incarner.
Ayant découvert la liaison entre leurs conjoints, Madame Chan et Monsieur Cho se rapprochent. Monsieur Cho décide de louer une chambre dans un hôtel pour écrire au calme. Après plusieurs jours sans nouvelles, il appelle un soir Madame Chan pour lui proposer de le rejoindre. Nous terminons avec ce dernier extrait. Madame Chan est assise à l'arrière d'un taxi. Le rouge de son manteau et de ses lèvres perce l'obscurité. La fluidité du plan est interrompue par un jump cut qui, en coupant l'élan du mouvement, révèle les doutes du personnage. Madame Chan est à présent dans les escaliers de l'hôtel. À l'image, son ascension est comme diffractée en de nombreux plans chaotiques qui s'enchaînent rapidement. On la voit monter, puis descendre des marches, attendre sur un palier, se presser dans un couloir. Le son claquant de ses talons indique sa nervosité. Tout se passe comme si le décor de l'hôtel devenait une toile d'araignée mentale dans laquelle Madame Chan se serait engluée. Monsieur Shaw l'attend, seul dans sa chambre. Par contraste, le plan fixe et silencieux sur son visage est d'autant plus fort. La caméra reste sur Monsieur Shaw qui tarde à répondre et tire pensivement sur une cigarette. La caméra est à présent dans le couloir devant la chambre de Monsieur Shaw. Madame Chan en ressort.
À demain après le bureau.
Ce n'est pas nécessaire, j'ai juste besoin de repos.
Ça ne me dérange aucunement. Je vous apporterai à manger. Qu'aimeriez-vous ?
Peu importe.
Je vais vous laisser. Reposez-vous.
Appelez-moi une fois chez vous. Faites sonner 3 fois, puis raccrochez.
D'accord.
À l'image, les visages des deux personnages apparaissent alternativement en gros plan, mettant à nu leurs sentiments.
Je ne vous espérais pas.
Jamais nous ne serons comme eux. Au revoir.
Après un sourire, Madame Chan repart. Sur la porte close de Monsieur Shaw, on découvre le numéro 2046, titre du film suivant de Wong Kar-wai. Madame Chan s'éloigne lentement dans le couloir. In the Mood for Love est un film impressionniste qui révèle par petites touches le sentiment amoureux. Le couple de Madame Chan et Monsieur Shaw, plus fantasmé que consommé, évolue dans une bulle hors du temps, dont se dégage une mélancolie envoûtante, à l'image de la valse phare du film. À votre tour de vous laisser porter par ce rythme entêtant. À tous ceux et celles qui ne veulent pas fêter la Saint-Valentin, je dédie ces quelques mots prononcés par le personnage de Madame Chan.
Quand on est seul, on a besoin de personne pour se sentir bien. Mais en couple, il faut être heureux ensemble. Je ne pensais pas que la vie conjugale serait aussi compliquée. The Mood for Love est un film réalisé par Wong Kar-wai qui est sorti en salle en novembre 2000.
Le film est disponible en vidéo à la demande sur plusieurs plateformes, ainsi qu'en DVD, éditeur Océan Film.
D'arrêter cette valse de In the Mood for Love, mais on est toujours d'humeur à aimer dans cette émission. On retrouve la chronique d'étoiles plein les yeux dans 2 semaines. À 19h, vous allez retrouver Solidaire Monde et nous, on se retrouvera lundi à 18h10 pour une nouvelle édition de L'Oreille Curieuse. Passez une très bonne soirée, un bon week-end en avance. À lundi.
my case. Whoa. But I'd be lying if I said was key. Least my problems don't mean it ain't there. But I'd be lying about one respect. Of gold.
Radio G 101.5 FM.